Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui au parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville avec Emmanuel Das-Grassas, qui fait partie du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, avec lequel on va faire une visite sur les zones humides du parc Jean-Jacques Rousseau. Racontez-nous ce que ça va être.
Aujourd'hui, c'est surtout pour engager une réflexion sur la relation homme-nature et on va prendre comme support les zones humides qui sont présentes dans le parc Jean-Jacques Rousseau. Donc, il y a différents gradients de nature et on va justement discuter de la biodiversité, des atteintes à la nature et de nouvelles relations à inventer entre l'homme et la nature.
Et pourquoi les zones humides en particulier du coup ?
Alors les zones humides d'abord parce qu'elles sont très présentes au parc Jean-Jacques Rousseau et puis elles sont très menacées. Elles ont été menacées par la recherche de valorisation par l'homme, la mise en culture ou même la destruction pure et simple pour des carrières ou des habitations, l'urbanisation.
Il y en a qui sont préservés donc.
Et oui, on essaye d'en préserver aujourd'hui le plus grand nombre parce qu'on a retrouvé tous les intérêts qui peuvent avoir ces zones humides pour l'homme, notamment le rôle de régulation contre les inondations, mais aussi contre la sécheresse, puisque les zones humides prennent l'eau en hiver et restituent progressivement cette eau l'été.
Vous pouvez nous toucher un mot du Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France ?
Oui, c'est une association loi 1901. Elle comprend aujourd'hui une centaine de salariés. C'est une importante association. Elle a comme objectif de préserver et de gérer et de valoriser les différents espaces naturels de la région des Hauts-de-France. Il y a un conseil d'administration avec des bénévoles et aussi un conseil scientifique avec des bénévoles qui permettent d'orienter les stratégies et les actions de cette structure.
Et il y a beaucoup de sorties en fait à l'année hein.
Oui, il y a beaucoup de sorties à l'échelle de l'ensemble des Hauts-de-France. On pense que c'est vraiment quasiment plusieurs dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers de visiteurs par an. Donc c'est vraiment très important pour justement sensibiliser les gens à la nature.
Et on trouve les informations où ?
Alors il y a un site internet. Internet Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et vous trouvez vraiment toutes les informations nécessaires.
Et vous êtes un des salariés donc du conservatoire ?
Oui, moi je suis un des salariés du conservatoire et ma présence ici, elle est permise grâce à un partenariat entre le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et le Conseil départemental de l'Oise, mais également l'Agence de l'eau Seine-Normandie et le Conseil régional des Hauts-de-France.
Et ici, donc, les zones humides, ce sont des territoires qui sont préservés par le conservatoire. Est-ce que vous y faites des excursions régulièrement ou pas du tout ?
Alors sur ce territoire-là, donc à l'échelle du parc naturel des Hauts-de-France, oui. Mais au parc Jean-Jacques Rousseau, c'est un site qui est effectivement espace naturel sensible du département, qui appartient au département. Donc c'est le département qui préserve le site. Et nous, on contribue simplement aux éléments de connaissance, de conseil en gestion et d'animation comme aujourd'hui.
Mais il y a des chantiers organisés par le conservatoire hein, pour la préservation de ces territoires ?
Alors, Oui. Donc les chantiers nature sont ouverts d'ailleurs à tout bénévole, à toute personne qui le souhaite. Et ça permet d'avoir une action vraiment active. Et le bénévolat, je crois en 2022, ça représentait quasiment 4 emplois pleins. Donc c'est quand même un volume très très important qui est directement destiné à la protection de la nature.
Parce que moi je connais des conservateurs en fait bénévoles. Sur le territoire de l'Oise. Je pense notamment à Thierry de Couter ou à Emmanuel Motelet, parce que j'ai fait déjà des reportages avec eux. Donc, vous connaissez tous ensemble
Vous voyez,
il y a des réunions aussi avec les bénévoles.
Oui. Donc, quand vous êtes bénévole, donc, évidemment, une fois par an, vous pouvez assister à l'Assemblée Générale qui présente le rapport d'activité, tout ce qu'on a fait dans l'année, le rapport financier et le rapport moral du président. Mais il y a tout au long de l'année différentes manifestations, des rencontres et on contribue à la formation des conservateurs bénévoles. Donc il y a tout un accompagnement et on a des échanges très réguliers avec les bénévoles qui sont des relais locaux entre les acteurs locaux et les salariés du conservatoire notamment.
Vous Vous pensez beaucoup sensibiliser le public avec les animations? Quelles sont les réactions du public? Est-ce qu'ils attachent plus d'importance après à ce lien?
Alors oui, on se rend compte qu'il y a vraiment quelquefois des déclics qui se font, même des fois des vocations, c'est quand même assez...
Ils viennent eux-mêmes bénévoles
Oui, même salariés, même acteurs, ensuite ils en font leur métier. Donc il y a un impact vraiment très important. On a vu d'ailleurs les choses évoluer sur les 30 dernières années, puisque moi je fais 30 ans que je suis au conservatoire, et c'est vrai que les choses progressent. Bon, on aimerait qu'elles progressent encore un peu plus vite, mais en tout cas, elles ont effectivement bien progressé. Mais c'est toujours intéressant de replacer les notions, parce que très vite, les termes sont galvaudés, et c'est bien de revoir sur le terrain, effectivement, qu'est-ce qu'une zone humide, qu'est-ce que la biodiversité, qu'est-ce que la diversité spécifique, et de le faire ensemble sur le terrain, c'est mieux.
La terminologie évolue, mais les territoires aussi, j'imagine, de toute façon. Donc, il y a toujours à dire sur ces territoires, des choses nouvelles à découvrir. Oui. Même d'une année sur l'autre, un même territoire, j'imagine qu'il y a toujours quelque chose à découvrir.
Oui, nous-mêmes, on a pris conscience de, même si quelquefois les enjeux étaient perçus, aujourd'hui, les enjeux sont quelquefois vraiment très présents. Si on parle du dérèglement climatique, il y a une relation entre zones humides et dérèglement climatique, l'avenir des zones humides et la solution par la nature aussi, parce que les zones humides peuvent justement nous apporter des services et de nous permettre de nous adapter contre les effets du dérèglement climatique.
Donc, elles effectivement, peuvent résister là, par rapport aux canicules, etc.
Parce que, bon, c'est comme tout, il faut se donner des objectifs, il faut se donner ensuite les moyens de réussir, hein, c'est pas évident. Mais oui, il y a vraiment des capacités d'adaptation. Après, il est très important dès aujourd'hui pour que ces zones humides nous rendent le maximum de services, qu'on ait de nouveau une réflexion sur l'utilisation de l'eau et quel partage de l'eau, quelle consommation. Et évidemment, toute l'eau qu'on pourra récupérer, ne pas souiller inutilement, ça va aussi aider à la préservation des zones humides.
Les pluies, etc.
Oui, exactement.
Mais chez les particuliers aussi, en fait.
Chez les particuliers, les industriels, les agriculteurs. Vraiment, c'est tous les acteurs qui doivent participer à...
C'est le gros sujet du moment, l'eau.
Oui. N'est-ce pas ? Et effectivement, on voit que sur la biodiversité, les zones humides en particulier, c'est plus la sécheresse qui va impacter les choses que l'élévation de température. Donc, effectivement, l'eau va devenir un enjeu très fort.
Oui, parce que là, dernièrement, il a beaucoup plu, mais en fait, l'eau n'atteint pas les nappes phréatiques parce qu'en fait, la terre est beaucoup trop sèche, c'est ça ? Ça ne s'infiltre pas ?
Oui, et la végétation a déjà commencé à se développer.
Donc elle
prélève une partie aussi, elle en a besoin
logique.
Aussi. Donc c'est ce qu'on appelle, on est sorti en fait des pluies efficaces. Et les pluies efficaces, c'est vraiment entre l'automne et le début
et
du printemps.
En plus, on a eu une sécheresse hivernale.
C'est ça qui a impacté
très fortement.
Donc c'est
assez catastrophique cette année quand même.
Ça peut, après il faut regarder vraiment ce qui se passe. Et effectivement, on sensibilise beaucoup autour des zones humides, et des zones humides particulières qu'on appelle les tourbières, parce qu'en plus, la tourbière, quand elle fonctionne bien, elle conserve l'eau, mais elle conserve aussi des grandes quantités de carbone. Alors que lorsqu'elle dysfonctionne, lorsqu'elle s'assèche, elle libère du carbone, voire même du méthane, ce qui aggrave encore la situation par rapport aux dérèglements climatiques. Donc il faut préserver les zones humides, absolument.
Merci Manuel.
Merci.
Quelques mots sur Jean-Jacques Rousseau et le parc Jean-Jacques Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau, il a vécu les 6 derniers mois de sa vie.
Court.
Oui, assez court. Il s'y est promené, ça c'est certain. Et Jean-Jacques Rousseau, vous connaissez son écrit, Le Contrat Social, et puis également sa relation à la nature. Donc il herborisait dans les environs. Et il y a une relation directe entre la nature et Jean-Jacques Rousseau. Mais le parc, lui, c'était le parc de Monsieur de Girardin, qui a accueilli Jean-Jacques Rousseau. Donc on devrait presque plus l'appeler le parc de Girardin. Donc on va aller se promener. Alors il y avait une petite île où autrefois il était enterré. On va passer le long de cette île. Et on va aller assez vite dans un premier temps pour aller retrouver des éléments de zone humide. Là, en face d'un petit morceau de zone humide. Est-ce que des gens peuvent me dire où est la zone humide ?
Là.
À mon avis, les herbes qui bordent l'eau, ça doit faire partie de la zone humide.
Oui. Très bien. Et après, vous l'arrêtez où, la zone humide ?
Où je l'arrêterai ? Je ne sais pas.
De l'autre côté, plutôt.
Là, déjà, il y a...
Il y a les herbes dans les zones humides.
Ah, premier élément de définition d'une zone humide. Oui.
Si on va de l'autre côté, près des arbres, c'est aussi humide.
Alors, il doit y avoir une petite frange humide. Ouais. Donc, c'est pas mal comme réponse, mais elle est quand même fausse, mais c'est pas mal du tout. Justement, pendant très longtemps, les gens parlaient de zone humide et puis ils mettaient derrière pas mal de terre, ils ne savaient pas trop. Et aujourd'hui, d'après la loi, parce que c'est la loi qui a fixé finalement la définition, le plan d'eau en lui-même ne constitue pas une zone humide. Mais en revanche, la zone humide, elle est définie par vraiment trois critères. Alors, il faut quand même de l'eau, et elle fonctionne bien justement avec de l'eau. Tout le temps ou temporairement, il peut n'y avoir que de l'eau que pendant une petite période. Et le deuxième critère, c'est effectivement la végétation. Donc quand vous avez parlé de l'herbe, c'était un très bon réflexe. Et effectivement, la zone humide, elle est... Alors, c'est très précisément, quand vous avez une surface, il faut que la surface soit à plus de 50% couverte par des plantes de zone humide. Et il faut que le cortège, ce soit effectivement au moins 50% de plantes de zone humide. Donc c'est ce critère végétation. Alors au niveau national, il y a une liste et puis il est considéré que telle espèce est typique de zone humide. Donc ici par exemple, vous avez des lèches ou des carex.
Oui.
Et il y a deux espèces qui sont bien connues. Il y en a une qui fait des gros utricules et des larges feuilles, qui est la lèche des rives, et une qui fait des feuilles plus étroites, qui est la lèche des marais. Et donc, effectivement, là, on a un petit bout de zone humide. Alors, vous avez aussi l'iris des marais. Donc, en fait, la zone humide, c'est juste cette petite bande. Que, par exemple, là, si vous seriez venu il y a à peu près 15 ans, c'était complètement tondu. Donc, du coup, comment reconnaître la zone humide? Mais on ne prend pas en compte les animaux parce qu'ils bougent d'un endroit à l'autre. Donc,
la terre, en fait,
Ah oui, mais le crapaud commun, par exemple, il ne va à l'eau que pour la période de reproduction. Et tout le reste du temps, il est dans la forêt. Et la grenouille, elle peut très bien aller vivre dans la forêt. Par exemple, il y a les grenouilles rousses qui, la plupart du temps, sont en forêt.
La terre.
Ah.
La qualité de la terre.
En fait, oui, ce sont les sols. Donc ici, par exemple, j'aurais pu prendre une tarière, faire une carotte, et on aurait regardé le sol. Et si dans les sols, on a dans les 50 premiers centimètres des taches d'oxydant réduction, eh bien, hop, on est en zone humide. Alors après, il y a des terres particulières, il y a la tourbe, elle est en zone humide. Et puis il y a par exemple les argiles, où là ça retient complètement l'eau et on sait qu'on est potentiellement en zone humide quand il y a de l'eau. Donc ça c'est important et quand on n'a que le critère pédologique, on parle de zone humide potentielle. Et après, faudrait ne plus faucher pour voir la végétation revenir et être sûr qu'on est en zone humide. Vous avez les libellules, quand elle sort de l'eau, elle a besoin de végétation en zone humide juste à côté, parce que les ailes ne sont pas encore sèches, elle a besoin aussi d'avoir de la nourriture rapide. Donc dans une végétation comme ça, il y a plein de petits insectes, et donc pour les libellules c'est aussi bien. Et puis vous avez, en fonction des étages de végétation, vous avez des communautés différentes. Si vous prenez les araignées, vous avez les araignées qui courent au sol, vous avez les araignées qui même creusent des terriers dans les sols. Vous avez les araignées qui sont dans les litières. Vous avez des araignées qui ne vivent que dans les 10 premiers centimètres, que dans les 30 premiers, que dans le premier mètre. Et vous avez même des araignées qui sont typiques des canopées. Donc à chaque fois que vous avez une structure diversifiée de végétation, différents étages, à chaque fois vous avez un cortège. Ce qui fait que si vous avez une mosaïque de milieu avec différents étages de végétation, vous avez beaucoup plus d'espèces que s'il n'y a qu'un seul étage de végétation. Donc là, c'est vraiment très bien d'avoir laissé, d'avoir pas fauché, puisqu'on retrouve différentes strates. Et là, vous avez des toiles d'araignées typiques, plusieurs, donc vous voyez. Je pense que c'est Agelena labyrinthica qui est présente. Si vous regardez, vous pouvez même la voir. Et ça démontre bien tout l'intérêt. Bah, si elles sont là, c'est qu'il y a des petits animaux, de la nourriture. Alors évidemment, si vous fauchez à cette période-là,
c'est la cata.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais à une visite organisée par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France avec Emmanuel Dasgrassas, qui est donc conservateur, au parc Jean-Jacques Rousseau autour de la notion de zone humide. Et c'était la première partie de mon reportage. À bientôt sur RVM.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.